Alors, ce n'est pas non plus parce qu'on a eu une soirée Goldman dans l'église avec la famille Gonzalez que je me permets de vous proposer cette chanson pour introduire le message de ce matin. Surprenant peut-être pour plusieurs. Alors, si vous la connaissez pas, vous la reprendrez, hein. Elle est magnifique. Simplement, je voulais partager cette chanson avec vous car le texte est juste magnifique. Lui, Jean-Jacques, donc, qui est juif et dont la famille a connu la barbarie nazie, se pose cette question: aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Cette question, je crois, devrait nous accompagner chaque jour, et encore plus le dimanche matin, quand nous venons ensemble devant notre Dieu en église avec les frères et sœurs. Je ne sais pas si j'ai mis le psaume 53, il y est. Ben voilà. Du haut du ciel, Dieu observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent et qui cherche Dieu. Et je crois que cela nous éviterait beaucoup de problèmes communautaires et aussi les attitudes et les paroles qui parfois peuvent être blessantes ou décourageantes parce qu'on a oublié d'y mettre l'amour. Alors pas l'amour naturel des hommes, mais l'amour de Dieu, cet amour que Jésus est venu nous manifester jusqu'à donner sa vie sur une croix, pour que nous soyons sauvés du jugement de Dieu. Voilà, pas un homme. Le constat de Dieu, c'est que quand il regarde du haut de son ciel notre terre, eh ben, le seul constat qu'il puisse faire, c'est qu'il n'y en a pas un qui le recherche. Donc, d'où cette question: aurais-je été meilleur ou pire que ces gens? Cette réflexion est avant tout pour moi. Et j'en profite d'être là devant vous pour vous demander pardon si par des paroles ou des attitudes je vous ai un jour blessé. Ceci étant dit, et afin de choquer personne, puisqu'on est, si j'ai bien compris, on est dimanche matin, hein, on est dans une église, on va quand même lire un texte biblique. Hein, ça vous rassure, ça. Voilà. Un texte qui rejoint, vous allez voir, la chanson de Goldman, il me semble. Alors, je ne sais pas qui rejoint qui, hein. Si c'est la parabole qui rejoint Goldman, ou bon, on peut dire que vu que ce texte de l'Évangile était écrit avant, je crois que Goldman s'en est peut-être inspiré et c'est lui qui rejoint cette histoire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, comme le pasteur Gonzalez l'avait fait. Alors, Goldman est un homme qui connaît, je pense, bien sa Bible, qui connaît bien l'histoire de son peuple. Et voilà, je crois qu'on peut aussi le porter dans la prière pour qu'il découvre aussi le Christ comme son sauveur. Et je vous invite à continuer donc ce temps en prenant cette parabole de Luc 18, verset 9 qui devrait s'afficher. Voilà. La parabole du pharisien ou du collecteur d'impôts ou du publicain. Voilà, ces deux personnages. Jésus raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts, ou un publicain, suivant vos versions, voilà. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière: Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête, adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts-là. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne la dîme ou 10% de mes revenus. Et de son côté, le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait: Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, dit Jésus, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Si je vous dis que notre société est en pleine mutation et en plus à vitesse grand V, je ne vous apprends rien, hein. Je crois que, voilà, ceux qui sont en boucle devant BFM voient un peu ce qui se passe. Mais je suis convaincu que l'enseignement de Jésus dans cette parabole est plus que jamais d'actualité. Nous devons nous en imprégner et tout mettre en œuvre pour la vivre avec l'aide du Saint-Esprit, si nous voulons être déclarés justes par Dieu. Donc, dans cette histoire, il y a deux personnages qui montent au temple pour prier. Et ça, je crois que c'est important. ils viennent au temple pour prier. Alors le pharisien, vous me direz, bon, c'est plutôt normal, hein, l'homme qui était, voilà, c'était son repère et je pense qu'il avait l'habitude d'y aller. L'homme religieux au top, le pharisien, c'est voilà, le top du top. Il fait tout bien vu de l'extérieur, il fait de son mieux pour respecter la loi et il y arrive certainement plutôt bien. Je pense que voilà, il avait de quoi être fier de lui, parce que tout ce qu'il énonce, il le fait, je crois sincèrement. Alors, première petite remarque, je crois qu'il faut faire attention, on peut facilement se laisser éblouir par ce genre de personnage à l'esprit pharisien. Attention à nos erreurs d'appréciation, elles peuvent être lourdes de conséquences dans notre comportement. C'est un peu comme Samuel en a fait l'expérience lorsqu'il a été envoyé pour oindre le futur roi d'Israël. Et on peut lire dans 1 Samuel 16, verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je crois que c'est une première remarque qui est importante à ne pas oublier. Attention à l'apparence qui des fois facilement voilà, peut nous fasciner d'ailleurs et orienter un peu notre regard sur certaines personnes. Alors si on regarde sa prière à ce pharisien, je dirais d'un point de vue chrétien, enfin de mon côté, ça commence pas trop mal hein, quand même. Il remercie Dieu. Il commence par remercier Dieu, mais ses paroles sont vides de sens en fait. Il ne dit rien de ce que Dieu a fait pour lui, pas un mot de la grâce de Dieu ou des différents aspects de sa gloire. À la différence d'un serviteur Job qui pouvait dire « J'ai horreur de moi », on trouve ce texte dans Job 42, ou comme Pierre qui pouvait dire à Jésus « Retire-toi de moi car je suis un homme pécheur ». Lui, il est centré uniquement sur lui-même. Sa façon de s'adresser à Dieu montre combien il est satisfait de sa propre conduite. Il observe la loi d'une manière qui lui paraît tellement scrupuleuse qu'il est assuré, et à tort, que Dieu lui-même ne peut rien trouver à redire au sujet de sa conduite. Sa mention finale au sujet du publicain est extrêmement dédaigneuse. Alors cessons de nous comparer aux autres et de nous féliciter de n'être ni avare, ni injuste, ni adultère, et j'en passe, peut-être ni divorcé, ni de la manière dont je vis. Voilà, des fois, en exagérant même peut-être les vices de nos semblables, jusqu'à la calomnie. Que nous puissions réaliser devant Dieu notre état de pécheur, alors il n'y aura plus de place pour une forme d'orgueil quelconque. Humble et repentant, nous estimerons, comme pouvait le dire Paul dans Philippiens 2, verset 3, les autres supérieurs à nous-mêmes. Alors ça, c'est vrai que c'est des choses faciles à dire, hein, mais un peu moins faciles à réaliser. Mais je crois que cette parabole nous enseigne à nous placer sous le regard de Dieu pour justement faire ce constat-là et nous laisser interpeller. Est-ce que mon frère et ma sœur qui se trouvent dans cette situation-là aujourd'hui, est-ce que c'est pour ça que je veux le relier à cette chanson de Jean-Jacques Goldman, aurais-je été meilleur ou pire si j'avais vécu les mêmes circonstances que lui? Le deuxième personnage, donc, c'est ce publicain, ou péager. C'était des collecteurs d'impôts pour la puissance occupante, donc les Romains. Ils étaient très souvent des voleurs qui extorquaient le plus d'argent possible. C'était un peu facile pour eux. Injustes, très souvent. À progain, ils étaient méprisés et haïs. Donc ça, c'est le cliché du publicain. Mais attention de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Cet homme, bien qu'il porte cette étiquette de publicain, il est dans une toute autre disposition d'esprit. Je me disais, c'est un peu comme nos politiques, on les critique facilement. Alors, ils sont critiquables, hein, certainement, à plein de niveaux. Mais je crois que, parce qu'il y en a beaucoup qui ont soif de pouvoir, on le ressent, et qui servent aussi leurs propres intérêts, un peu comme ces publicains. Mais je crois qu'il y en a qui qui font aussi, qui accomplissent leurs tâches sans regarder au pouvoir et pour servir les intérêts aussi de nous pour la France et de leur pays. Donc attention de voilà ne pas mettre tout le monde dans le même sac, parce qu'on le voit avec ce publicain. Lui, il était peut-être publicain, mais il avait une recherche profonde d'autre chose. Il ne se met pas sur le devant de la scène quand on voit son attitude. Il se tient dans un coin retiré, il n'ose pas lever les yeux vers le ciel car il craint Dieu et se considère comme un pécheur devant lui. Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Il se frappe la poitrine en signe de profonde douleur. Il sait qu'à l'intérieur de lui, ça ne tourne pas rond et qu'il a besoin du secours de Dieu. Et tu es peut-être dans cet état ce matin, avec cette même recherche. Tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu sais peut-être pas comment te dépêtrer de cette situation. Et je crois que cette promesse de Dieu dans Jérémie 29, 14. Alors je ne sais pas si je l'ai mis celle-là. Vous tournerez vers moi, dit le Seigneur. Vous vous tournerez. Et lorsque vous vous tournerez vers moi, de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. L'Éternel le déclare. Alors oui, cette parole, elle est pour son peuple, avant tout. Mais je crois qu'elle est aussi pour chacun de nous et pour toi en particulier ce matin, comme ce publicain a pu le réaliser. Et c'est dans une réelle humiliation qu'il a poussé la porte du temple. Il ne cherche pas à se justifier, comme on le fait souvent, en pensant qu'il y a beaucoup de pécheurs et que certains, même peut-être parmi ces pécheurs, sont pires que nous. C'est facile de se justifier, voilà, dire « ouais, je suis moins pire que les autres, quoi ». Et oui, sauf que lui, dans cet état d'esprit dans lequel il pousse la porte du temple pour entrer dans la présence de Dieu, je crois qu'il est disposé, un peu comme Paul pouvait le dire, à confesser qu'il est le premier des pécheurs. On trouve ce texte dans une des lettres à Timothée, 1, verset 15. Alors une question se pose pour chacun de nous. Dans quel état d'esprit j'ai poussé la porte de l'église ce matin? Comme le pharisien, content de ma semaine remplie de bonnes œuvres et de ma propre justice, avec mes « je » et « merci parce que je ne suis pas ». Je crois que c'est une vraie question. Ou comme le publicain, avec cet esprit d'humilité, en rendant grâce à Dieu pour son amour et sa patience, son pardon envers moi. Et pourquoi pas, et je l'espère, aussi avec les bonnes œuvres, parce que ces bonnes œuvres du pharisien, en fait, ce sont quand même des bonnes œuvres, c'est bien, c'est juste l'esprit qui est pas bon. Et je crois que, comme Paul nous le dit aussi, Dieu a préparé de bonnes œuvres afin qu'on les accomplisse. Donc c'est bien de venir peut-être avec nos bonnes œuvres aussi, et j'espère que on en a, hein. Mais sauf que quand on les expose, à la différence du pharisien, je crois qu'il faut mettre le projecteur sur Dieu et non pas sur nous-mêmes, comme il pouvait le faire lui, et sur l'action du Saint-Esprit dans nos vies et manifester la gloire de notre Dieu. Jésus termine son histoire en nous révélant qui est déclaré juste par Dieu. Surprenant, hein, la chute de cette histoire. Le pharisien identifiait son salut à ses bonnes actions, alors que le publicain reconnaît humblement son salut dans la seule action miséricordieuse de Dieu. Le collecteur d'impôts livre ici sa pauvreté d'homme et d'âme. Face à Dieu, il sait qu'il est pécheur, mais espère que le Seigneur aura un regard bienveillant à son encontre. Là est toute sa foi. Et c'est ce que disait Anaël ce matin, je crois que c'est par la foi que nous sommes sauvés, et c'est ce que cette attitude du publicain, je me mélange après avec les deux là, cette conclusion donc rejoint ce que Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. ce n'est pas le fruit des œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, par notre union avec le Christ Jésus. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Alors, quelles leçons pratiques je peux tirer de cette parabole aujourd'hui ? Comme je le disais, je crois que notre société est dans une grande mutation. Et si notre Église est ouverte à tous, comme le dit d'ailleurs, je ne sais pas si vous faites attention au petit panneau qu'il y a au bord de la route en bas, maison de Dieu, maison de tous. Je crois que c'est ça à peu près. C'est pas ça. Si, avant. C'est moi qui l'ai écrit, mais je me rappelle plus. Enfin, c'est pas moi qui, j'ai fait le panneau, hein. Je l'ai piqué dans une chapelle dans le Vercors et j'ai trouvé ça, ce texte magnifique. Enfin, piqué, pas le panneau. L'idée. Voilà. J'ai récupéré l'idée. J'ai fait un petit panneau. Voilà. Qu'on se comprenne bien. Donc, je crois que c'est une très bonne chose de, et c'est même le rôle de l'Église, que ce soit une Église ouverte, hein, qu'on vive pas dans notre bulle. L'Église a pour rôle d'accueillir des hommes et des femmes qui sont en recherche de Dieu. Mais de ce fait-là, nous prenons un risque de voir arriver des personnes qui ne nous ressemblent pas au milieu de nous, voire pas du tout d'ailleurs. Peut-être des voleurs, des violeurs, des abuseurs, des meurtriers, à toute la frange des LGBT, ou tout simplement peut-être des frères et sœurs qui ont eu des échecs dans la vie, des enfants qui tournent mal, une vie de couple compliquée, un divorce, le PACS, la vie commune, toutes ces choses, et chacun pourra mettre ce qu'il a dans la tête, et peut-être même des collecteurs d'impôts d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous, mais qui travaillent dans l'administration fiscale. Enfin, soyez les bienvenus aussi. Voilà. Rappelez-vous cette chanson de Goldman. Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais vécu les mêmes circonstances, ou si j'étais né dans cette famille où ils ont grandi? Est-ce que je serai là ce matin pour vous parler de la grâce et de la foi en Jésus-Christ? Pas si sûr. Alors la question se pose, comment allons-nous accueillir ces personnes-là? Dieu les aime autant que nous. Il veut leur salut et il veut aussi leur bonheur. Et je crois qu'on peut se rappeler ce texte de Jean 3, 16, que nous connaissons tous, mais voilà, qui peut-être pour quelqu'un ce matin fera écho différemment. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si comme le publicain, ils ont eu le courage de pousser la porte de l'Église, qui ne trouve jamais en nous un regard de pharisien, un regard qui ignore ou un regard qui méprise, mais un regard rempli d'amour comme celui de Jésus avec le jeune homme riche. Cette histoire qu'on trouve dans Marc 10, 21, Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Alors reconnaissons que la tâche est plus que difficile à vue humaine, voire impossible. Si je compte sur mes propres capacités, je n'y arriverai jamais. Mais il y a une solution, laissons-nous revêtir du manteau de l'humilité, comme le dit Pierre dans sa lettre 1 Pierre 5, et nous on en a partagé quelque chose à notre petit groupe de quartier, puisqu'on regardait ce texte de 1 Pierre 5. Revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Donc demandons au Seigneur qu'il ouvre nos cœurs et qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit pour être cette lumière qui brille dans la nuit de notre monde. Que nous soyons aussi cette bonne odeur de Christ qui donne envie à ceux que l'on côtoie de rester dans la présence de Dieu. Et n'oublions jamais de remercier Dieu pour sa grâce et sa miséricorde envers nous, pécheurs. Et que cette prière de Jean-Baptiste soit aussi la nôtre. Il faut que lui devienne de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Que Dieu nous aide à accomplir cette tâche qui est difficile, mais combien importante, je crois, pour notre Église et plus, je dirais, pour la vie de notre société, pour tout ce que l'on rencontre au quotidien, qu'on puisse être vraiment cette bonne odeur de Christ. Et surtout que nous n'oublions jamais que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse.